Carnet d'un inconnu, cinquième fichier. 8. Déclaration d'amour. Agacé, mécontent de moi, j'errai dans le jardin pendant près d'une demi-heure, réfléchissant sur la conduite à tenir. Le soleil se couchait. Tout à coup, au détour d'une allée, je me trouvai face à face avec Nastenka. Elle avait les yeux pleins de larmes qu'elle essuyait avec son mouchoir. « Je vous cherchais, » fit-elle. « Je vous cherchais aussi. Dites-moi si je suis ou non dans une maison de fous. »« Vous n'êtes nullement dans une maison de fous, » répondit-elle d'un air offensé et me regardant fixement. « Mais alors, que se passe-t-il? Au nom du Christ, donnez-moi un conseil. Où se trouve maintenant mon oncle? Puis-je aller le trouver? Je suis heureux de vous avoir rencontré. Peut-être pourrez-vous me tirer d'embarras. N'allez pas auprès de votre oncle. Je viens moi-même de les quitter. Mais où sont-ils? Qui le sait? Peut-être sont-ils tous retournés dans le potager, dit-elle, irritée. Quel potager? La semaine passée, Foma Fomitch cria qu'il ne voulait plus rester dans cette maison. Il courut au potager, prit une bêche dans la hutte et se mit à remuer la terre. Nous n'en revenions pas, le croyant devenu fou. Alors il dit, « Afin que l'on ne me reproche plus le pain que je mange, le pain qu'on me donne, je vais bêcher la terre. Je paierai de mon travail la nourriture que j'ai reçue, et je m'en irai ensuite. Voilà où vous me réduisez. » Et tout le monde de pleurer, de se mettre à genoux devant lui, de vouloir lui ôter sa bêche. Mais il persistait à remuer la terre. Il a ravagé tout un carré de navets. Comme on lui a cédé une fois, il se peut qu'il ait recommencé. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Et vous pouvez me raconter cela avec ce sang-froid? M'écriai-je dans une grande indignation. Elle leva sur moi des yeux étincelants. Pardonnez-moi, je ne sais plus ce que je dis, repris-je. Écoutez. « Savez-vous pourquoi je suis venue ici ?»« Non, non, » répondit-elle en rougissant, et une expression de douleur se refléta sur son charmant visage. « Excusez-moi, » continuai-je, « je ne suis plus moi-même. Je sais que je devrais prendre plus de précautions, surtout avec vous. Mais n'importe, je pense que dans des cas pareils, la franchise est encore le meilleur parti. J'avoue. » Ou plutôt, je voulais dire, vous connaissez les intentions de mon oncle? Il m'a ordonné de vous demander votre main. Oh, quelle sottise! Ne me parlez pas de cela, je vous en prie! Interrompit-elle précipitamment, la figure tout empourprée. J'étais fort embarrassée. Comment, sottise? Mais il m'a écrit... Il vous a écrit? Fit-elle avec animation. « Il m'avait pourtant promis de ne pas le faire. Quelle sottise, mon Dieu, quelle sottise !»« Excusez-moi, » bredouillai-je, ne sachant plus que dire. « Peut-être ai-je agi brutalement, imprudemment, mais aussi la circonstance est exceptionnelle. Pensez donc à l'imbroglio où nous nous débattons. »« Oh, mon Dieu, ne vous excusez pas. Croyez qu'il m'est pénible d'entendre tout cela. Et pourtant... Je désirais vous parler, dans l'espoir que vous m'instruiriez. Ah, que c'est fâcheux, il vous a écrit, c'est ce que je craignais le plus. Quel homme, mon Dieu! Et vous l'avez cru, et vous êtes venu bride abattue. Pourquoi faire? Elle ne cachait pas sa contrariété, et il faut avouer que sa situation n'était pas enviable. J'avoue, je ne m'attendais pas, fis-je dans une grande confusion. À la tournure que prend... Je pensais, au contraire... « Ah, vous pensiez cela ?» dit-elle, non sans une légère ironie. « Vous savez, vous allez montrer la lettre qu'il vous a écrite. »« Volontiers. Mais ne m'en veuillez pas, ne vous froissez pas, nous sommes déjà assez malheureux, » supplia-t-elle, sans cependant que le sourire ironique quittât sa jolie bouche. « Oh, ne me prenez pas pour un imbécile !» m'écriai-je avec fougue. « Mais peut-être êtes-vous prévenu contre moi? M'aurait-on calomnié près de vous? Ou vous êtes-vous fait une opinion par la gaffe que vous m'avez vu commettre? vous vous tromperiez. Je comprends que ma situation puisse vous paraître assez ridicule. Ne vous moquez pas de moi, je vous en prie. Je ne sais même pas ce que je dis, et c'est la faute de mes maudits 22 ans. Oh, mais qu'est-ce que cela peut faire? Cela fait que celui qui n'a que 22 ans porte cet âge écrit sur le front. C'est ainsi que je l'ai proclamé en arrivant, quand je fis ce joli bond au milieu de la salle. C'est ainsi que je le marque encore par mon attitude en ce moment. Maudit âge! « Non, non !» dit Nastenka en se retenant du rire. « Je suis persuadée que vous êtes bon, gentil, intelligent. Et je vous jure que je parle franchement. Seulement, vous avez trop d'amour-propre. On s'en corrige. »« Il me semble que j'ai autant d'amour-propre qu'il faut en avoir. »« Que non ! Ainsi, tantôt, cette honte que vous avez éprouvée pour un faux pas. » Et de quel droit tourniez-vous en ridicule ce bon, ce généreux oncle qui vous a fait tant de bien? Pourquoi vouliez-vous rejeter sur lui le ridicule qui vous écrasait? C'était mal, cela. C'était vilain. Cela ne vous fait pas honneur. Et je vous avoue que vous me fûtes odieux à ce moment-là. Attrape. C'est vrai. Je me suis conduit comme un imbécile. Je dirais plus, comme un lâche. Vous l'avez remarqué. Et m'en voilà bien puni. Grondez-moi, moquez-vous de moi. Mais écoutez, peut-être changerez-vous d'avis par la suite. Continuai-je, entraîné par un étrange sentiment. Vous ne me connaissez que si peu. Il se peut que lorsque la connaissance sera plus vieille, alors peut-être... Au nom de Dieu, laissons cela ! S'écria Nastenka avec une visible impatience. « Bien, bien, laissons. Mais où pourrais-je vous voir ? Mais comment, où me voir ? Il est impossible que le dernier mot soit dit, Nastasia Evgrafovna. Je vous supplie, fixez-moi un rendez-vous pour aujourd'hui même. Mais il se fait tard, alors disons demain matin, si possible, le plus tôt que vous pourrez. Je me ferai réveiller de bonne heure. » Vous savez, il y a un pavillon là-bas, près de l'étang. J'en connais bien le chemin. J'y suis souvent allée, étant petit. Rendez-vous ? Mais pourquoi faire ? Ne pouvons-nous causer maintenant ? Mais je ne suis encore au courant de rien, Nastasia Evgrafovna. Avant tout, il faut que je parle à mon oncle. Il doit me raconter tout. Et alors, je vous dirai peut-être quelque chose de grave. « Non, non, pas du tout !» s'écria Nastasia. « Finissons-en tout de suite pour n'y plus revenir. Il est inutile que vous alliez au pavillon. Je vous jure que je n'y viendrai pas. Et je vous prie sérieusement de ne plus penser à toutes ces bêtises. » « Mais alors, mon oncle a agi envers moi comme un fou ? » m'écriai-je dans un élan de dépit insupportable. « Pourquoi m'avoir fait venir ? Mais quel est ce bruit ? Nous étions tout près de la maison d'où nous parvenaient des hurlements et des cris atroces. « Mon Dieu ! » fit-elle en pâlissant encore. « Je le prévoyais bien. »« Vous le prévoyez ? » ?»« Encore une question, Nastasia Evgrafovna. Une question que je n'ai pas le droit de vous poser, mais je m'y décide pour le bien général. Dites-moi. Et votre réponse restera ensevelie dans mon cœur. Dites-moi franchement si mon oncle vous aime ou non. » Laissez donc toutes ces bêtises une fois pour toutes, s'écria-t-elle rouge de colère. Vous aussi, mais s'il m'eût aimée, il ne se serait pas employé à vous marier avec moi. Et elle eut un amer sourire. Où avez-vous pris cela? Ne comprenez-vous pas de quoi il s'agit? Vous entendez ces cris? Mais c'est Foma Fomitch. Certes, oui, c'est Foma Fomitch. Mais en ce moment, il s'agit de moi. Ils disent la même folie que vous. Ils le croient aussi amoureux de moi. Comme je suis pauvre et sans force, comme il n'en coûte rien de me calomnier et qu'ils veulent le marier avec une autre, ils exigent qu'il me chasse, qu'il me renvoie dans ma famille. Mais lui, lorsqu'on lui parle de cela, il se met en colère et il serait prêt à mettre en pièces Foma Fomitch lui-même. Voilà pourquoi ils sont en train de crier. Alors, c'est donc vrai, il va épouser cette Tatiana. Quelle Tatiana? Cette sotte. Ce n'est pas du tout une sotte. Elle est très bonne et vous n'avez pas le droit de parler ainsi. C'est un noble cœur, plus généreux que beaucoup d'autres. Est-ce sa faute si elle est malheureuse? Excusez-moi, admettons que vous ayez raison. Mais ne vous trompez-vous pas sur le fond même de l'affaire? Comment se fait-il qu'ils soient aussi bienveillants à l'égard de votre père? S'ils étaient aussi animés contre vous que vous le dites, s'ils voulaient vous chasser, ils auraient une autre attitude envers lui et ne lui feraient pas si bon accueil. Mais ne voyez-vous pas ce que mon père fait pour moi? Il joue le bouffon. On l'accueille parce qu'il a su gagner les bonnes grâces de Foma Fomitch. Cet ancien bouffon est flatté d'en avoir un maintenant. Pour qui croiriez-vous donc qu'il pût agir ainsi? Ce n'est pas pour moi seul. À quoi ça lui servirait-il, à lui? Ce n'est pas pour lui-même qu'il s'abaisserait ainsi devant qui que ce fût. Il peut paraître ridicule aux yeux de certains, mais c'est l'homme le plus honnête, le plus noble. Il croit, Dieu sait pourquoi, mais ce n'est pas parce que je suis bien payée. Il croit préférable que je reste dans cette maison. Mais j'ai réussi à le dissuader en une lettre résolue. Il est venu pour me chercher et m'emmener dès demain. Nous sommes à la dernière extrémité. Ils vont me dévorer, et je suis certaine qu'on se dispute en ce moment à cause de moi. À cause de moi, ils vont le déchirer, ils vont le perdre. Et il est pour moi comme un père, plus qu'un père, vous entendez? Je ne veux plus attendre, j'en sais plus long que les autres. Demain, demain même, je partirai. Qui sait, peut-être pourront-ils raccommoder son mariage avec Tatiana Ivanovna. Voilà, maintenant vous savez tout, et je vous prie de l'en instruire, puisque je ne peux même plus lui parler. On nous épie, et surtout cette Perepelizina. Dites-lui qu'il ne s'inquiète pas de moi, que j'aime mieux manger du pain noir dans l'isba de mon père que de continuer ici à lui occasionner du tourment. Pauvre, je dois vivre en pauvre. Mais, Dieu, quel vacarme! Que se passe-t-il encore? Tant pis, j'y vais de ce pas, et coûte que coûte. Je vais tout leur cracher à la face, et advienne que pourra. Je le dois. Adieu! Et elle s'enfuit. Je restai là, conscient du rôle ridicule que je venais de jouer, et me demandant comment tout cela allait se terminer. Je plaignis la pauvre jeune fille, et avait grand-peur pour mon oncle. Soudain, Gavrilo surgit près de moi. Il tenait encore son cahier à la main. « Votre oncle vous demande, » dit-il d'un ton morne. « Mon oncle m'appelle ? Où est-il ? » « Dans la salle où l'on prend le thé, où vous étiez tantôt. »« Avec qui ? » ?»« Tout seul, il vous attend. »« Moi ? » ?»« Il a envoyé chercher Foma Fomitch. » Nos beaux jours sont passés, ajouta-t-il en poussant un profond soupir. Chercher Foma Fomitch? Et où est madame? Elle est en syncope dans son appartement. Elle est sans connaissance et elle pleure. En causant ainsi, nous arrivâmes à la terrasse. Il faisait presque nuit. Mon oncle était en train d'arpenter à grands pas la salle où avait eu lieu mon engagement avec Foma Fomitch. Des bougies allumées étaient posées sur les tables. À ma vue, il s'élança vers moi et me pressa les mains avec force. Il était pâle et haletant. Ses mains tremblaient, et par intervalles, un frémissement nerveux lui parcourait tout le corps. 9. Votre Excellence. Mon ami, tout est fini. Le sort en est jeté, murmura-t-il tragiquement. « Mon oncle, ces cris que j'ai entendus. »« Oui, mon cher, des cris, toutes sortes de cris. Ma mère est en syncope et tout est sans dessus-dessous. Mais j'ai pris une décision, et je tiendrai bon. Je ne crains plus personne, Serioja. Je veux leur faire voir que j'ai une volonté. Je le leur prouverai. Je t'ai envoyé chercher pour m'y aider, Serioja. J'ai le cœur brisé. » Mais je dois agir. Je suis forcée d'agir avec une sévérité implacable. La vérité ne pardonne pas. « Mais qu'arrive-t-il, mon bon oncle ?»«
Je me sépare de Foma, »
répondit mon oncle d'un ton résolu.
« Mon cher oncle, » m'écriai-je avec transport, « vous ne pouviez rien faire de mieux, et si peu que je puisse aider à ce que vous avez résolu, disposez de moi dans les siècles des siècles. »
« Je te remercie, mon petit, je te remercie, mais tout est déjà arrêté. J'attends Foma, on est allé le chercher. Lui ou moi, nous devons nous séparer. De deux choses, ou l'une, ou bien Foma quittera cette maison, ou bien je redeviens hussard. On me reprendra et l'on me donnera une brigade. À bas tous les systèmes, une vie nouvelle va commencer.
Qu'est-ce que c'est que ce cahier de français ?
Cria-t-il à Gavrilo d'une voix furieuse.
« Il n'en faut plus, brûle-moi ça, piétine-le, déchire-le. C'est moi, ton maître, qui te l'ordonne et qui te défend d'apprendre le français. Tu ne peux pas, tu n'oseras pas me désobéir, car c'est moi qui suis ton maître, et non Foma Fomitch. »
« Gloire à Dieu !» marmotta Gavrilo. De toute évidence, mon oncle ne plaisantait pas.
« Mon ami, reprit-il d'un ton pénétré, ils exigent l'impossible. Tu seras mon juge. Tu seras entre lui et moi comme un juge impartial. Tu ne pouvais t'imaginer ce qu'ils veulent de moi. C'est absolument inhumain et malhonnête. Je te dirai tout cela, mais auparavant...
« Je sais déjà tout, mon cher oncle, interrompis-je, et je devine... Je viens de causer avec Nastasia Evgrafovna.
Mon ami, pas un mot de cela à présent, pas un mot,
interrompit-il à son tour, non sans précipitation et presque avec effroi. Plus tard, je te raconterai tout moi-même, mais en attendant...
Eh bien, où donc est Foma Fomitch ?
Cria-t-il à Vido Pliassov qui entrait dans la salle. Le laquais venait annoncer que Foma Fomitch ne consentait pas à venir, qu'il considérait la sommation de mon oncle par trop brutale et qu'il en était offensé.
Mon oncle frappa du pied en criant « Amène-le ! Amène-le ici de force ! Traîne-le !»
Vido Pliassov, qui n'avait jamais vu son maître dans un tel transport de colère, se retira fort effrayé. J'étais stupéfait.
« Il faut qu'il se passe quelque chose de bien grave, me disais-je, pour qu'un homme de ce caractère en vienne à ce point d'irritation et trouve la force de pareille résolution. »
Pendant quelques minutes, mon oncle se remit à arpenter la pièce. Il semblait en lutte avec lui-même.
« Ne déchire pas ton cahier, » dit-il enfin à Gavrilo. « Attends et reste ici, j'aurai peut-être besoin de toi. »
Puis, s'adressant à moi,
Mon ami, me dit-il, il me semble que je me suis un peu emballé. Toute chose doit être faite avec dignité, avec courage, mais sans cris, sans insultes, c'est cela. Dis-moi, Seryoja, ne trouverais-tu pas préférable de t'éloigner un moment ? Cela t'est sans doute égal. Je te raconterai après tout ce qu'il se sera passé, hein ? Qu'en penses-tu ? Fais-le pour moi.
Je le regardai fixement et je dis... « Vous avez peur, mon oncle. Vous avez des remords. »«
Non, mon ami, je n'ai pas de remords, » s'écria-t-il avec beaucoup de fougue. « Je ne crains plus rien. Mes résolutions sont fermement prises. Tu ne sais pas. Tu ne peux t'imaginer ce qu'ils viennent d'exiger de moi. Pouvais-je consentir ? Non. Et je le leur prouverai. Je me suis révolté. Il fallait bien que le jour arrivât où je leur montrerais mon énergie. Mais sais-tu, mon ami ? Je regrette de t'avoir fait demander. Il sera pénible à Foma de t'avoir pour témoin de son humiliation. Vois-tu, je voudrais le renvoyer d'une façon délicate, sans l'abaisser. Mais ce n'est qu'une manière de parler. J'aurais beau envelopper mes paroles les plus adoucies, il n'en sera pas moins humilié. Je suis brutal, sans éducation. Je suis capable de lâcher quelques mots que je serais le premier à regretter. Il n'en demeure pas moins qu'il m'a fait beaucoup de bien. Va-t'en, mon ami. Voilà qu'on l'amène. On l'amène. Seryoja, sors, je t'en supplie. Je te raconterai tout. Sors, au nom du Christ.
Et mon oncle me conduisit vers la terrasse,
au moment même où Foma faisait son entrée. Je dois confesser que je ne m'en allais pas. Je décidai de rester où j'étais. Il y faisait noir, et par conséquent, on ne pouvait me voir. Je résolus d'écouter. Je ne cherche pas à excuser mon action, mais je dis hautement que ce fut un exploit de martyr. Quand je pense que je pus écouter des choses pareilles pendant toute une grande demi-heure, sans perdre patience. J'étais placé de manière non seulement à fort bien voir, mais aussi à bien entendre. À présent, imaginez-vous un Foma à qui l'on a ordonné de venir, sous peine de voir employer la force en cas de refus. Sont-ce bien mes oreilles qui ont entendu une telle menace, colonel ? Larmoya-t-il en entrant. Est-ce bien votre ordre que l'on m'a transmis ? Parfaitement, ce sont tes oreilles, Foma. Calme-toi, fit courageusement mon oncle. Assieds-toi et causons sérieusement en ami et en frère. Assieds-toi, Foma. Foma Fomitch s'assit solennellement dans un fauteuil. Mon oncle se mit à arpenter la pièce à pas précipités et irréguliers, ne sachant évidemment par où commencer. Tout à fait en frère, répéta-t-il. Tu vas comprendre, Foma, tu n'es pas un enfant. Je n'en suis pas un non plus. En un mot, nous sommes tous deux en âge. Vois-tu, Foma, il y a sur certains points des malentendus entre nous. Oui, sur certains points. Alors, ne vaudrait-il pas mieux se séparer? Je suis convaincu que tu es un noble cœur, que tu ne me veux que du bien, et que c'est pour cela que tu... Mais assez de paroles superflues. Foma, je suis ton ami pour la vie, et je te le jure sur tous les saints. Voici 15 000 roubles, c'est tout ce que je possède en numéraire. J'ai gratté les dernières miettes et je fais du tort aux miens. Prends-les sans crainte. Toi, tu ne me dois rien. Je dois t'assurer la vie. Prends sans crainte. Toi, tu ne me dois rien, car jamais je ne pourrai te payer tout ce que tu as fait pour moi, et que je reconnais parfaitement, quoique nous ne nous entendions pas en ce moment sur un point capital. Demain, après-demain, quand tu voudras, nous nous quitterons. Va dans notre petite ville, Foma, ce n'est qu'à 10 verstes d'ici. Tu trouveras derrière l'église, dans la première ruelle, une très gentille maisonnette au volet vert. Elle appartient à la veuve d'un pope. On la dirait faite pour toi. Cette dame ne demandera pas mieux que de la vendre, et je l'achèterai pour t'en faire présent. Tu t'y installeras, et tu seras tout près de nous. Tu t'y consacreras à la littérature, aux sciences, tu acquerras la célébrité. Les fonctionnaires de la ville sont des gens nobles, affables, désintéressés. Le pope est un savant. Tu viendras nous voir les jours de fête, et ce sera une existence de paradis. Veux-tu ? Voilà donc comment il voulait chasser Foma, me dis-je. Il ne m'avait pas parlé d'argent. Il se fit un long et profond silence. Dans son fauteuil, Foma semblait atterré. Et immobile, il regardait mon oncle, visiblement gêné par ce silence et ce regard. « L'argent ! » murmura-t-il enfin d'une voix volontairement affaiblie. « Où est-il cet argent ? Donnez-le, donnez-le vite !»« Le voici, Foma, » dit mon oncle. « Ce sont les dernières miettes, 15 000 roubles, tout ce que j'avais. Voici. Gavrilo, prends cet argent pour toi. » Fit Foma avec une grande douceur. « Il pourra t'être utile, vieillard. »« Mais non » cria-t-il tout à coup en se levant précipitamment. « Non, donne-le, Gavrilo, donne-le. Donne-moi ces millions que je les piétine, que je les déchire, que je crache dessus, que je les éparpille, que je les souille, que je les déshonore. On m'offre de l'argent à moi? On achète ma désertion de cette maison? Est-ce bien moi qui entendis de pareilles choses? Est-ce bien moi qui encouru ce dernier opprobre? Les voici, vos millions, regardez! Les voici, les voici, les voici. Voilà comment agit Foma Opiskin si vous ne le saviez pas encore, colonel. »
Foma éparpilla l'alias à travers la chambre. Notez qu'il ne déchira aucun des billets et qu'il ne les piétina pas plus qu'il ne cracha dessus, ainsi qu'il se vantait de le faire. Il se contenta de les froisser, non sans quelques précautions. Gavrilo se précipita pour ramasser l'argent, qu'il remit à son maître, après que Foma fut parti. Cette conduite de Foma eut le don de stupéfier mon oncle. À son tour, il restait là, immobile, ahuri, la bouche ouverte, devant le parasite qui était retombé dans le fauteuil, et haletait comme en proie à la plus indicible émotion.
« Tu es un être sublime, Foma !» s'écria enfin mon oncle, revenu à lui. « Tu es le plus noble des hommes !»«
Je le sais, » répondit Foma d'une voix faible, mais avec une extrême dignité.
« Foma, pardonne-moi, je me suis conduit envers toi comme un lâche !»«
Oui, comme un lâche, » acquiesça Foma.
« Foma, ce n'est pas la noblesse de ton âme qui me surprend, » poursuivit mon oncle charmé. « Ce qui m'étonne, c'est que j'ai pu être assez aveugle, assez brutal, assez lâche pour oser te proposer cet argent. Mais tu te trompes, Foma, je ne t'achetais pas. Je ne te payais pas pour quitter la maison. Je voulais tout simplement t'assurer des ressources afin que tu ne fusses pas dans le dénuement en me quittant. Je te le jure, je suis prêt à te demander pardon à genoux. À genoux, Foma. Je vais m'agenouiller tout de suite à tes pieds, pour peu que tu le désires. »
« Je n'ai pas besoin de vos génuflexions, colonel. »
« Mais mon Dieu, songe donc, Foma, que j'étais hors de moi, affolée. Dis-moi comment je pourrais effacer cette insulte. Allons, dis-le-moi. »
« Il ne me faut rien, colonel. Et soyez sûr que dès demain, je secouerai la poussière de mes chaussures sur le seuil de cette maison. »
Il fit un mouvement pour se lever. Mon oncle, effrayé, se précipita et le fit asseoir de force. « Mais non, Foma, tu ne t'en iras pas, je te l'assure » criait-il. « Ne parle plus de poussière ni de chaussures, Foma, tu ne t'en iras pas. Ou bien je te suivrai jusqu'au bout du monde, jusqu'à ce que tu m'aies pardonné. Je jure, Foma, que je le ferai. »
« Vous pardonnez? Vous êtes donc coupable ?» dit Foma.
« Mais comprenez-vous votre faute? Comprenez-vous que vous étiez déjà coupable de m'avoir donné votre pain? Comprenez-vous que, de ce moment, vous avez empoisonné toutes les bouchées que j'ai pu manger chez vous? Vous venez de me reprocher chacune de ces bouchées. Vous venez de me faire sentir que j'ai vécu dans votre maison en esclave, en laquais, que j'étais au-dessous des semelles de vos chaussures vernies. Moi, qui, dans la candeur de mon âme, me figurais être là comme votre ami, comme votre frère. N'est-ce pas vous, vous-même qui m'aviez fait croire à cette fraternité? Ainsi, vous tissiez dans l'ombre cette toile où je me suis laissé prendre comme un sot. Vous creusiez ténébreusement cette fosse dans laquelle vous venez de me pousser. Pourquoi, depuis si longtemps, ne m'avez-vous pas assommé du manche de votre bêche? Pourquoi, dès le commencement, ne m'avez-vous pas tordu le cou comme un poulet qui ne peut pondre des œufs? Oui, c'est bien cela. Je tiens à cette comparaison, colonel. Quoiqu'elle soit empruntée à la vie des campagnes et qu'elle rappelle la plus triviale littérature, j'y tiens parce qu'elle prouve l'absurdité de vos accusations. Je suis juste aussi coupable envers vous que ce poulet qui a mécontenté son maître en ne pouvant lui donner deux. De grâce, colonel, est-ce ainsi que l'on paie un ami, un frère? Et pourquoi voulez-vous m'acheter? Pourquoi? Tiens, mon frère bien-aimé, je suis ton débiteur, tu m'as sauvé la vie, prends donc ces deniers de Judas, mais disparais de ma vue. Que c'est simple, quelle brutalité! Vous vous figuriez que je convoitais votre or, tandis que je ne nourrissais que des pensées séraphiques pour l'édification de votre bonheur. Oh, vous m'avez brisé le cœur. Vous vous êtes joué de mes sentiments les plus purs, comme un enfant de son hocher. Il y avait longtemps, colonel, que je prévoyais cette avanie. Et voilà pourquoi il y a longtemps que m'étrangle votre pain et votre sel. Voilà pourquoi m'écrasaient vos moelleux édredons. Voilà pourquoi vos sucreries m'étaient plus brûlantes que le poivre de Cayenne. Non, colonel, soyez heureux tout seul, et laissez Foma suivre, sac au dos, son douloureux calvaire. Ma décision est irrévocable, colonel.
Non, Foma, il n'en sera pas ainsi, il n'en peut être ainsi.
Gémit mon oncle écrasé.
Il en sera ainsi, colonel, et cela doit être ainsi. Je vous quitte dès demain. Répandez vos millions. Parsemez-en toute ma route jusqu'à Moscou. Je les foulerai aux pieds avec un fier mépris. Ce pied que vous voyez, colonel, piétinera, écrasera, souillera vos billets de banque. Et Foma Fomitch se nourrira exclusivement de la noblesse de son âme. La preuve est faite. J'ai dit « Adieu, colonel. Adieu, colonel. »
Il fit de rechef un mouvement pour se lever.
« Pardon, Foma, pardon, oublie !»
dit encore mon oncle d'un ton suppliant.
« Pardon? Qu'avez-vous besoin de mon pardon? Admettons que je vous pardonne. Je suis chrétien et ne puis pas ne pas pardonner. J'ai déjà presque pardonné. Mais décidez-vous-même, cela aurait-il le sens commun? Serait-il digne de moi de rester, ne fût-ce qu'un moment dans cette maison dont vous m'avez chassé?
« Mais je t'assure, Foma, que cela n'aurait rien que de convenable. »«
Convenable? Sommes-nous donc des pères? Est-ce que vous ne comprenez pas que je viens de vous écraser de ma générosité et que votre misérable conduite vous a réduit à rien? Vous êtes à terre, et moi, je plane. Où donc est alors la parité? L'amitié est-elle possible, hors de l'égalité ?» C'est en sanglotant que je le dis, et non en triomphant, comme vous le pensez, peut-être.
Mais je pleure aussi, Foma, je te le jure.
Voilà donc cet homme, reprit Foma, pour lequel j'ai passé tant de nuits blanches. Que de fois, en mes insomnies, je me levais, me disant, « À cette heure, il dort tranquillement, confiant en ta vigilance. » À toi de veiller pour lui, Foma. Peut-être trouveras-tu les moyens du bonheur de cet homme.
Voilà ce que pensait Foma pendant ses insomnies, colonel. Et nous avons vu de quelle façon le colonel l'en remercie. Mais finissons-en.
Mais je saurai mériter de nouveau ton amitié, Foma, je te le jure.
Vous mériteriez mon amitié? Et quelle garantie m'offrez-vous?
En chrétien que je suis, je vous pardonnerai, et j'irai même jusqu'à vous aimer.
Mais, homme de cœur, pourrais-je contenir mon mépris? La morale m'interdit d'agir autrement, car, je vous le répète, vous vous êtes déshonoré, tandis que je me conduisais avec noblesse. Montrez-moi celui des vôtres qui serait capable d'un acte pareil. Qui d'entre eux refuserait cette grosse somme qu'a pourtant repoussé le misérable Foma, ce Foma honni, par simple penchant à la grandeur d'âme? Non, colonel, pour vous égaler à moi, il vous faudrait désormais une longue suite d'exploits. Mais de quel exploit peut être capable celui qui ne peut me dire « vous » comme à son égal, qui me tutoie comme un domestique?
« Mais, Foma, je ne te tutoyais que par amitié. Je ne savais pas que cela te fût désagréable. Mon Dieu, si j'avais pu le savoir !»«
Vous, continua-t-il, qui n'avez pu, ou plutôt, qui n'avez pas voulu consentir à une de mes plus insignifiantes demandes, à l'une des plus futiles, alors que je vous priais de me dire « Votre Excellence !»
« Mais Foma, c'était un véritable attentat à la hiérarchie. »
C'est une phrase que vous avez apprise par cœur et que vous répétez comme un perroquet. Vous ne comprenez donc pas que vous m'avez humilié, que vous m'avez fait affront par ce refus de m'appeler Excellence? Vous m'avez déshonoré pour n'avoir pas compris mes raisons. Vous m'avez rendu ridicule comme un vieillard à lubie que guette l'asile des aliénés. Est-ce que je ne sais pas moi-même qu'il eût été ridicule pour moi d'être appelé votre excellence, moi qui méprise tous ces grades, toutes ces grandeurs terrestres sans valeur intrinsèque si elles ne s'accompagnent pas de vertu? Pour un million, je n'accepterai pas le grade de général sans vertu. Cependant, vous m'avez pris pour un démon quand c'était à votre bien que je sacrifiais mon amour-propre en permettant que vous et vos savants vous puissiez me regarder comme fou. Ce n'était que pour éclairer votre raison, pour développer votre moralité, pour vous inonder des rayons des lumières nouvelles que j'exigeais de vous le titre de général. Je voulais justement arriver à vous convaincre que les généraux ne sont pas forcément les plus grands astres du monde. Je voulais vous prouver qu'un titre n'est rien sans une grande âme, qu'il n'y avait pas tant à se réjouir de la visite de ce général, alors qu'il se trouvait peut-être tout près de vous de véritables foyers de vertu. Mais vous étiez tellement gonflé de votre titre de colonel qu'il vous paraissait dur de me traiter en général. Voilà où il faut chercher les causes de votre refus, et non dans je ne sais quel attentat à la hiérarchie. Tout cela vient de ce que vous êtes colonel, et que je ne suis que Foma. Non, Foma, non, je t'assure que tu te trompes. Tu es un savant, et non simplement Foma. J'ai pour toi la plus grande estime. Vous m'estimez ? Fort bien. Veuillez alors me dire, du moment que vous m'estimez, si je ne suis pas digne, selon vous, du titre de général. Répondez nettement et immédiatement. En suis-je digne ou non ? Je veux me rendre compte de votre degré d'intelligence et de votre esprit. Par ton honnêteté, par ton désintéressement, par la grandeur d'âme, tu en es digne, proclama mon oncle avec orgueil. Alors, si j'en suis digne, pourquoi ne voulez-vous pas me dire, votre excellence ? Foma, je te le dirai si tu y tiens. Je l'exige, colonel. J'insiste, et je l'exige précisément parce que je vois combien cela vous est pénible. Ce sacrifice sera le commencement des exploits qu'il vous faut accomplir pour m'égaler. Ce n'est que lorsque vous vous serez vaincu vous-même que je pourrai croire à votre sincérité. Dès demain, je te dirai, votre excellence. Non, pas demain, colonel. Demain, cela va de soi. J'exige que vous me le disiez tout de suite. Bien, Foma, je suis prêt. Seulement, comment le dire, comme ça, tout de suite ? Mais pourquoi pas tout de suite ? Auriez-vous honte ? Si vous avez honte, c'est une insulte que vous me faites. Eh bien, Foma, je suis prêt. Et j'en serai fier. Seulement, Foma, puis-je te dire comme ça tout d'un coup « Bonjour, votre excellence ?» On ne peut pas faire ça. Bonjour, votre excellence, serait insultant, ça aurait l'air d'une plaisanterie, d'une farce que je ne saurais admettre. Je vous en prie, colonel, prenez un autre ton. Foma, tu ne plaisantes pas ? D'abord, je ne suis pas « tu », Yegor Ilitch, mais « vous ». Ensuite, je ne suis pas Foma, mais Foma Fomitch. Ne l'oubliez pas. Je jure, Foma Fomitch, que je suis plein de bonne volonté et prêt de tout mon cœur à contenter tes désirs. Mais que dois-je dire ? Vous trouvez difficile de faire vos phrases avec votre excellence. Cela se conçoit, et vous auriez dû vous expliquer plus tôt. C'est tout à fait excusable, surtout quand on n'est pas écrivain, pour m'exprimer avec délicatesse. Je vais vous aider. Répétez après moi, votre excellence. Eh bien, votre excellence. Non, pas de « eh bien », mais tout simplement, votre excellence. Je vous demande, colonel, de prendre un autre ton. J'espère aussi que vous n'allez pas vous formaliser si je vous propose de vous incliner légèrement en prononçant ces mots, ce qui exprime le respect et le désir de tenir compte de toutes les observations faites. J'ai fréquenté, moi aussi, la Société des Généraux, et je connais ses nuances. Eh bien, Votre Excellence... Votre Excellence... Combien je suis heureux de l'occasion qui s'offre à moi de vous présenter mes excuses pour avoir si mal compris l'âme de Votre Excellence. J'ose vous assurer qu'à l'avenir, je n'épargnerai point mes faibles forces pour le bien commun. Et en voilà assez pour vous. Pauvre oncle, il dut répéter ce galimatia, phrase par phrase, mot par mot. Je rougissais comme un coupable. La colère m'étouffait. « Voyons, s'enquit le bourreau, ne sentez-vous pas maintenant dans votre cœur une sorte d'allégresse, comme si un ange y fût descendu? Répondez, sentez-vous la présence de l'ange? » « Oui, Foma, je sens une sorte d'allégresse, répondit mon oncle. « Maintenant que vous êtes vaincu, vous sentez votre cœur comme si on le baignait dans les saintes huiles ?» « Oui, Foma, on le dirait baigné dans l'huile. »« Dans l'huile je ne vous ai pas parlé d'huile, mais n'importe, vous saurez désormais qu'elle... Vous saurez désormais, colonel, ce que c'est que le devoir accompli. Luttez contre vous-même. Vous avez trop d'amour-propre. Votre orgueil est excessif. » « Oui, Foma, je le vois, soupirait mon oncle. Vous êtes un égoïste, un ténébreux égoïste. » « Oui, je suis un égoïste, Foma, je le sais depuis que je te connais. » « Je vous parle en ce moment comme un père, comme une tendre mère. Vous découragez tout le monde et vous oubliez la douceur des caresses. » « Tu as raison, Foma. Dans votre grossièreté, vous heurtez les cœurs d'une façon si brutale. Vous sollicitez l'attention d'une manière si prétentieuse que vous feriez sauver tout homme délicat à l'autre bout du monde. » Mon oncle soupira encore. « Soyez plus doux, plus attentif pour les autres. Témoignez-leur plus d'affection. Pensez aux autres plus qu'à vous-même, et vous ne serez pas oublié non plus. Vivez, mais laissez vivre les autres. » Tel est mon principe. Souffre, travaille, prie, espère. Voilà les règles de conduite que je voudrais inculquer à l'humanité entière. Suivez-les, et je serai le premier à vous ouvrir mon cœur, à pleurer, s'il le faut, sur votre poitrine. Tandis que vous ne vivez que pour vous, c'est lassant à la fin. Oh, mon douce parole, prononça dévotement Gavrilo. Tout cela est vrai, Foma, je le sens, acquiesça mon oncle, tout ému. Mais tout n'est pas de ma faute. J'ai été élevé ainsi. J'ai vécu parmi les soldats. Je te jure, Foma, que j'étais très sensible. Quand je fis mes adieux au régiment, tous les hussards, toute la brigade pleurait. Ils disaient tous qu'ils ne reverraient plus mon pareil. Alors, je m'étais dit que je n'étais pas un homme absolument mauvais. Nouveau trait d'égoïsme. Je vous reprends en flagrant délit d'amour-propre exaspéré. Vous vous vantez et vous cherchez à vous parer des larmes de ces hussards. Me voyez-vous faire parade des larmes de qui que ce soit? Et cependant, ça ne me serait pas difficile. J'aurais de quoi me vanter aussi. Ça m'a échappé, Foma, je n'ai pas pu me contenir au souvenir du beau temps passé. Le beau temps ne nous tombe pas du ciel, c'est nous qui le faisons nous-mêmes. Il est dans notre cœur, Yegor Ilitch. Pourquoi suis-je toujours heureux, calme, content, en dépit de mes malheurs? Pourquoi n'importunais-je personne excepté les imbéciles, les savants que je n'épargne pas et que je n'épargnerai jamais? Quels sont ces savants? Un homme de science. Mais chez lui, cette science est un leurre et non une science. Voyons, que disait-il ce tantôt? Et qu'il vienne, Faites venir tous les savants. Je suis en mesure de les confondre tous, de renverser toute leur doctrine. Quant à la noblesse de sentiment, je n'en parle même pas. Certainement, Foma, certainement, personne n'en doute. Tout à l'heure, j'ai fait preuve d'esprit, de talent, de colossale érudition littéraire, d'une connaissance approfondie du cœur humain. J'ai montré dans un brillant développement comment tel Kamarinsky pouvait devenir un thème élevé de conversation dans la bouche de l'homme de talent. Eh bien, lequel d'entre eux a su m'apprécier à ma valeur? Non, on se détournait de moi. Je suis certain qu'il vous a déjà dit que je ne savais rien. Et pourtant, il avait peut-être devant lui un Machiavel, un Mercadante, dont tout le défaut était sa pauvreté, son génie méconnu. Non, cela, c'est impardonnable. On me parle aussi d'un certain Korovkin. Qu'est-ce encore que celui-là? Foma, c'est un homme d'esprit et de science que j'attends. Celui-là est un véritable savant. Je vois ça. Une sorte d'aliboron moderne, pliant sous le poids des livres. Ces gens-là n'ont pas de cœur, colonel. Ils n'ont pas de cœur. Qu'est-ce que l'instruction sans la vertu? Non, Foma, non. Si tu avais entendu comme il parlait du bonheur conjugal, ces paroles allaient droit au cœur, Foma. On verra. On lui fera passer un examen à ce Korovkin. Mais en voilà assez, conclut-il en se levant. Je ne saurais encore vous accorder mon pardon total, colonel, car l'outrage fut sanglant. Mais je vais prier, et peut-être Dieu fera-t-il descendre la paix en mon âme offensée. Nous en reparlerons demain. Pour le moment, permettez-moi de me retirer. Je suis très fatigué. Je me sens affaibli. Ah, Foma, fit mon oncle avec empressement, tu dois être bien là. Si tu mangeais un morceau pour te réconforter, je vais donner des ordres.
Manger? Manger, répondit Foma avec un rire de mépris. On vous fait vider une soupe empoisonnée et puis on vous demande si vous n'avez pas faim. On soignerait les plaies du cœur avec de petits plats? Quel triste matérialiste vous faites, colonel! Foma, je te jure que je te faisais cette offre de bon cœur. C'est bien, laissons cela. Je me retire. Mais vous, courez immédiatement vous jeter aux pieds de votre mère. Et tâchez d'obtenir son pardon par vos larmes et vos sanglots. Tel est votre devoir. Ah, Foma, je n'ai cessé d'y penser tout le temps de notre conversation. J'y pensais à l'instant même en te parlant. Je suis prêt à rester à genoux devant elle jusqu'à l'aube. Mais pense seulement, Foma, à ce que l'on exige de moi. C'est injuste, cruel. Sois généreux, fais mon bonheur. Réfléchis, décide, et alors, je te jure... Non, Yegor Ilitch, non, ce n'est pas mon affaire, répondit Foma. Vous savez fort bien que je ne me mêle pas de tout cela. Je vous ai convaincu que je suis la cause de tout, bien que je me sois toujours tenu à l'écart de cette histoire, et dès le commencement, je vous le jure. Seule agit ici la volonté de votre mère, qui ne cherche que votre bien, naturellement. Rendez-vous auprès d'elle. Courez-y et réparez, par votre obéissance, le mal que vous avez fait. Il faut que votre colère soit passée avant que le soleil ne se couche. Quant à moi, je vais prier pour vous toute la nuit. Voici longtemps déjà que je ne sais plus ce que c'est que le sommeil, Yegor Ilitch. Adieu. Je te pardonne aussi, vieillard, ajouta-t-il en se tournant vers Gavrilo. Je sais que tu n'as pas agi dans la plénitude de ta raison. Pardonne-moi si je t'ai offensé. Adieu, adieu à tous, et que Dieu vous bénisse. Foma sortit. Je me précipitai aussitôt dans la salle. Tu nous écoutais? S'écria mon oncle. Oui, mon oncle, je vous écoutais. Dire que vous avez pu l'appeler votre excellence. Qu'y faire, mon cher? J'en suis même fier.
Qu'est-ce auprès de son sublime exploit? Quel cœur noble, désintéressé, quel grand homme! Serge, tu as entendu? Comment ai-je pu lui offrir de l'argent? Je ne parviens pas à m'en rendre compte. Mon ami, j'étais aveuglé par la colère. Je ne le comprenais pas. Je le soupçonnais, je l'accusais. Mais non, je vois bien qu'il ne pouvait être mon ennemi. As-tu vu la noblesse de son expression lorsqu'il a refusé cet argent? Fort bien, mon oncle. Soyez aussi fier qu'il vous plaira. Quant à moi, je pars. La patience me manque. Je vous le demande pour la dernière fois. Que voulez-vous de moi? Pourquoi m'avez-vous appelé auprès de vous? Mais si tout est réglé et que vous n'avez plus besoin de moi, je veux partir. De pareils spectacles me sont insupportables. Je partirai aujourd'hui même. Mon ami, fit mon oncle avec son agitation accoutumée, attends seulement 2 minutes. Je vais de ce pas chez ma mère pour y terminer une affaire de la plus haute importance. En attendant, va-t'en chez toi. Gavrilo va te reconduire. C'est maintenant dans le pavillon d'été, tu sais, dans le jardin. J'ai donné l'ordre d'y transporter ta malle. Quant à moi, je vais près de ma mère implorer son pardon. Je prendrai une décision ferme. Je sais laquelle. Et je reviendrai aussitôt vers toi pour te raconter tout, tout, jusqu'au dernier détail. Je t'ouvrirai mon cœur. Et nous finirons par revoir de beaux jours. 2 minutes, Serge, seulement 2 minutes. Il me serra la main et sortit précipitamment. Je n'avais plus qu'à suivre Gavrilo. 10. Mizanchikov. Le pavillon où me conduisit Gavrilo et qu'on appelait pavillon d'été avait été construit par les anciens propriétaires. C'était une jolie maisonnette en bois, située au milieu du jardin, à quelques pas de la vieille maison. Elle était entourée de 3 côtés par des tilleuls dont les branches touchaient le toit. Les 4 pièces qui la composaient servaient de chambre d'amis. En pénétrant dans celle qui m'était destinée, j'aperçus sur la table de nuit une feuille de papier à lettres, couverte de toutes sortes d'écritures superbes et où s'entrelaçaient guirlandes et paraphes. Les majuscules et les guirlandes étaient enluminées. L'ensemble composait un assez gentil travail de calligraphie. Dès les premiers mots, je vis que c'était une supplique à moi adressée, où j'étais qualifié de « bienfaiteur éclairé ». Il y avait un titre, « Les gémissements de Vido Pliassov ». Mais tous mes efforts pour comprendre quelque chose à ce fatras restèrent vains. C'était des sottises emphatiques, écrites dans un style pompeux de laquais. Je devinais seulement que Vido Pliassov se trouvait dans une situation difficile, qu'il sollicitait mon aide et mettait en moi tout son espoir en raison de mes lumières. Il concluait en me priant d'intervenir en sa faveur auprès de mon oncle au moyen de la mécanique. C'était la fin textuelle de l'épître que j'étais encore en train de lire quand la porte s'ouvrit et Mizanchikov entra. « J'espère que vous voudrez bien me permettre de faire votre connaissance, » me dit-il d'un ton dégagé, mais avec la plus grande politesse et en me tendant la main. « Je n'ai pu vous dire un mot ce tantôt, mais du premier coup, j'ai senti le désir de vous connaître plus amplement. » En dépit de ma mauvaise humeur, je répondis que j'étais moi-même enchantée, etc. Nous nous assîmes. « Qu'est-ce que c'est que ça ? » demanda-t-il à la vue de la lettre que j'avais encore à la main. « Ne sont-ce pas les gémissements de Vido Pliassov ? C'est bien ça, j'étais sûre qu'il vous attaquerait aussi. » Il me présenta une feuille semblable et contenant les mêmes gémissements. Il y a longtemps qu'on vous attendait et qu'il avait dû se préparer. Ne vous étonnez pas. Il se passe ici beaucoup de choses assez étranges et il y a vraiment de quoi rire. Rire seulement? Voyons, faudrait-il donc pleurer? Si vous le voulez, je vous raconterai l'histoire de Vido Pliassov et je suis sûre de vous amuser. Je vous avoue que Vido Pliassov m'intéresse assez peu pour le moment. répondis-je d'un ton mécontent. Il me paraissait évident que la démarche et l'amabilité de Mizantchikov devaient avoir un but et qu'il avait besoin de moi. L'après-midi, il se tenait morne et grave, et maintenant je le voyais gai, souriant et tout prêt à me narrer de longues histoires. Dès le premier abord, on voyait que cet homme était fort maître de lui et qu'il connaissait son monde à fond. « Maudit Foma !» dis-je avec emportement et en déchargeant un grand coup de poing sur la table. « Je suis sûr que c'est lui la source unique de tout le mal et qu'il mène tout. Maudite créature !»« On dirait que vous lui en voulez tout de même un peu trop !» remarqua Mizantchikov. « Un peu trop !» m'écriai-je soudainement enflammé. « Il se peut que tantôt j'ai dépassé la mesure et que j'ai ainsi autorisé l'assistance à me condamner. Je comprends fort bien que j'ai assez mal réussi et il était inutile de me le dire. Je sais aussi que ce n'est pas ainsi que l'on agit dans le monde. Mais réfléchissez et dites-moi s'il y avait moyen de ne pas s'emporter. Mais on se croirait dans une maison d'aliénés, si vous voulez savoir ce que j'en pense. Et je m'en vais, voilà tout. » « Fumez-vous ?» s'enquit placidement Mizantchikov. « Oui. Alors vous me permettrez d'allumer ma cigarette. Là-bas, il est interdit de fumer, et je commençais à m'ennuyer sérieusement. Je conviens que ça ne ressemble pas mal à un asile d'aliénés. Mais soyez sûr que je ne me permettrai pas de vous juger, car à votre place, je me serais peut-être emporté deux fois plus fort. » En ce cas, comment avez-vous pu conserver ce calme imperturbable si vous étiez tellement révolté? Je vous vois encore impassible, et je vous avoue qu'il m'a semblé singulier que vous vous désintéressiez ainsi de la défense du pauvre oncle, toujours prêt à faire du bien à tous et à chacun. Vous avez raison, il est le bienfaiteur d'une quantité de gens, mais je trouve complètement inutile de le défendre. Ça ne sert à rien, c'est humiliant pour lui. Et puis, je serai chassé dès le lendemain d'une pareille manifestation. Je dois vous dire franchement que je me trouve dans une situation telle qu'il me faut ménager cette hospitalité. Je ne saurais vous reprocher votre franchise, mais il y a certaines choses que je voudrais vous demander, car vous demeurez ici depuis un mois déjà. Tout ce que vous voudrez, entièrement à votre service. » répondit Mizantchikov avec empressement, et il approcha une chaise. « Expliquez-moi, comment il se peut que Foma Fomitch ait refusé une somme de 15 000 roubles qu'il tenait déjà dans les mains? Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment? Est-ce possible? » s'écria mon interlocuteur. « Racontez-moi ça, je vous prie. » Je lui fis le récit de la scène, en omettant l'incident, votre excellence. Il écoutait avec une avide curiosité et changea même de visage quand je lui confirmai ce chiffre de 15 000 roubles. « C'est très habile, » fit-il quand j'eus fini. « Je ne l'en aurais pas cru capable. » « Cependant, c'est un fait qu'il a refusé l'argent. Comment expliquer cela? Serait-ce vraiment par noblesse de sentiment ?» Il en a refusé 15 000 pour en avoir 30 plus tard. D'ailleurs, je doute que Foma agisse d'après un véritable calcul, ajouta-t-il après un moment de méditation. Ce n'est pas du tout un homme pratique. C'est une espèce de poète. 15 000. Voyez-vous, il aurait pris cet argent s'il avait pu résister à la tentation de poser, de faire des embarras. Ce n'est qu'un pleurnicheur, doué d'un amour-propre phénoménal. Il s'échauffait. On le sentait ennuyé et même jaloux. Je l'examinai curieusement. Il ajouta, pensif, « Il faut s'attendre à de grands changements. En ce moment, Yegor Ilitch nourrit un tel culte pour ce Foma qu'il pourrait bien en arriver à se marier par pure complaisance. » ajouta-t-il entre ses dents. « Alors, vous croyez à la possibilité de ce mariage insensé et criminel avec cet idiote ?» Mizantchikov me regarda fixement. Leur idée n'est pas déraisonnable. Ils prétendent qu'il doit faire quelque chose pour le bien de la famille.
Comme s'il n'en avait pas déjà assez fait, m'écriai-je avec indignation.
Et vous pouvez trouver raisonnable cette résolution d'épouser une pareille toquée?
Certes, je suis d'accord avec vous que ce n'est qu'une toquée.
C'est très bien à vous d'aimer ainsi votre oncle, et je compatis à vos inquiétudes. Cependant, il faut considérer qu'avec l'argent de cette demoiselle, on pourrait grandement étendre la propriété. D'ailleurs, ils ont d'autres raisons encore. Ils craignent que Yegor Ilitch se marie avec l'institutrice. Vous savez, cette jeune fille si intéressante.
Est-ce probable, à votre sens ? Lui demandai-je très ému.
Ça me fait l'effet d'une calomnie. Expliquez-moi ce point, au nom de Dieu. Cela m'intéresse infiniment.
Oh, il en est amoureux. Seulement, il le cache.
Il le cache ? Vous croyez qu'il le cache ? Et elle, est-ce qu'elle l'aime ?
Ça se pourrait. Du reste, elle a tout avantage à l'épouser. Elle est si pauvre.
Mais sur quoi vous basez-vous pour croire qu'il s'aime ?
Il est impossible de ne pas s'en apercevoir, et je crois qu'il se donne des rendez-vous. On a même été jusqu'à les prétendre en relations intimes. Seulement, n'en parlez à personne, c'est un secret que je vous confie.
« Comment croire une telle chose ? » m'écriai-je. « Est-ce que vous y croyez ? »
« Je n'en ai certainement pas la certitude absolue, n'ayant pas vu de mes yeux. Mais c'est fort possible. »«
Comment ? Mais rappelez-vous la délicatesse, l'honnêteté de mon oncle ?»«
J'en suis d'accord. Cependant, on peut se laisser entraîner, comptant réparer cela plus tard par un mariage. On est si facilement entraîné. » Mais je le répète, je ne garantis pas la véracité de ces faits. D'autant plus que ces gens-là ne l'aménagent pas. Ils l'ont même accusé de s'être donné à Vidopliassov.
« Eh bien, voyons, est-ce possible ? » m'écriai-je. « Avec Vidopliassov ? Est-ce que le seul fait d'en parler n'est pas répugnant ? Vous n'y croyez pas ? »
« Je vous dis que je ne crois à rien de tout cela. » répondit Mitzinchikov avec la même placidité. « Mais c'est possible, tout est possible en ce monde. D'abord, je n'ai pas vu, et puis ça ne me regarde pas. Cependant, comme je vois que vous semblez vous y intéresser énormément, sachez-le, j'estime assez peu probable que de telles relations aient jamais existé. Ce sont là les tours d'Anna Nilovna Perepelidzina. C'est elle qui a répandu ces bruits par jalousie, car elle comptait se marier avec Yegor Ilitch, je vous le jure sur le nom de Dieu, uniquement parce qu'elle est la fille d'un lieutenant-colonel. En ce moment, elle est en pleine déception et fort irritée. Je crois vous avoir fait part de tout ce que je sais sur ces affaires, et je vous avoue détester les commérages, d'autant plus que cela nous fait perdre un temps précieux. Je venais vous demander un petit service.
Un service ? Tout ce que vous voudrez, si je puis vous être utile.
Je le crois, et j'espère vous gagner à ma cause, car je vois que vous aimez votre bon oncle, et que vous vous intéressez à son bonheur. Mais au préalable, j'ai une prière à vous adresser.
Laquelle ?
Il se peut que vous consentiez à ce que je veux vous demander. Mais en tout cas, avant de vous exposer ma requête, j'espère que vous voudrez bien me faire la grande faveur de me donner votre parole de gentilhomme, que tout ce que nous aurons dit restera entre nous, que vous ne trahirez ce secret pour personne et ne mettrez pas à profit l'idée que je crois indispensable de vous communiquer. Me donnez-vous votre parole ?
Le début était solennel. Je donnai ma parole.
« Eh bien, fis-je.